Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Oh, la route est à tout le monde, hein.
Les grandes gueules du sport.
Tu sais qui je suis ?
Sam Blaireau. Jean-Christophe Drouet.
De retour dans les grandes gueules du sport, il est 11h06, merci de votre fidélité, c'est le samedi, le dimanche de 9h à midi et cette émission ne s'arrête jamais durant l'été, vous retrouverez les GG en juillet et en août et évidemment la saison prochaine avec Fred Veil, Julien Beneteau, Simon Dutin, Pascal Duprat. Dans quelques instants évidemment nous retournerons à Lille pour le grand départ du Tour de France, on parlera des Français, aucun n'aura réellement l'objectif d'un classement général. Faut-il se satisfaire des exploits sans lendemain? On se posera la question. 11h30, le dossier des GG. L'Euro féminin débute aujourd'hui pour notre équipe de France à 21h. France-Angleterre, après de nombreuses désillusions, nos Bleus sont-elles retombés dans l'anonymat? Je vous poserai la question. Et puis 11h45, on débriefera ce France-Nouvelle-Zélande, premier test match des Bleus à l'autre bout du monde. Défaite de justesse, hein. C'était en direct sur RMC, vous l'avez vécu, 31-27, évidemment, on vous racontera cette rencontre. Alors, on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Jeff Tuch. C'est important de citer les grands penseurs, qui a dit un jour: tu peux perdre une fois, mais pas 15. Tu peux perdre deux fois, mais pas 15. Tu peux perdre trois fois, mais pas 15. Tu peux perdre quatre fois, mais pas 15. Je fais très mal, Jeff Tuch. Tu peux perdre cinq fois, mais pas 15. Tu peux, à la rigueur, perdre six fois, mais pas 15. Tu peux perdre 7 fois, mais c'est chiant, hein. Ouais. Mais je vais faire jusqu'au bout. Tu peux perdre 8 fois, mais pas 15.
Ah, le mec,
tu peux perdre
pour sa dernière.
9 mois, mais pas 15. Tu peux perdre 10 fois, mais pas 15. Tu peux perdre 11 fois, tes copains, mais pas 15. Tu peux perdre 12 fois, mais pas 15. Tu peux perdre 13 fois, et c'est possible, ça arrive, mais pas 15. Et enfin, tu peux perdre 14 fois, mais pas 15.
RMC, les grandes gueules du sport, passe la seconde.
Retour au cyclisme, puisque Bernard Hinault est en jaune ce soir, au soir donc de la 12e étape. Il a creusé l'écart, il distance sérieusement Laurent Fignon, qui a peut-être déjà perdu ce Tour de France.
Moi, ça me fout un coup de nostalgie.
Oh man, il faut y aller, il faut essayer de sprinter. C'est très important maintenant, il ne reste plus rien, parce qu'il y a Wout van Aert qui est derrière. Mais la victoire, Romain Bardet, devant Van den Broek.
Nous n'aurons que ce que nous méritons.
Kevin Vauclin va s'imposer, lever les bras en Italie. Quel bonheur, quelle joie. Les Français sont en forme, en très grande forme.
On n'aura pas se contenter de ça.
Anthony Turgis qui se dit, ça va jouer à gauche, ça va jouer à gauche. Je prends la roue d'Eric Zi. Anthony Turgis, allez Anthony, tu vas la chercher la victoire.
Ouais, ouais.
Victoire d'Anthony Turgis. 3-10 victoires françaises. À 3, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2, il y en a 1. C'est Anthony Turgis.
On doit se contenter de ce que la vie nous donne et lui dire merci.
C'est à moi, visiblement, après cette coupure. Très bien, j'étais pas préparé. Le grand départ du Tour de France aujourd'hui en direct de Lille. 3 semaines de folie à suivre en direct et en intégralité sur RMC autour de Christophe Cessieux qui est avec nous ce matin, évidemment. Salut mon Christophe.
Comment ça va les copains? Vous êtes en forme?
Mais oui, on est très heureux.
Écoutez cette voix de Christophe.
Là, alors que ça n'a pas commencé.
Ouais, ça n'a pas commencé, il est reposé. Les trucs, le samedi matin au Grand Gueule,
dans 3 semaines,
vous
le
rigolez, reposé avec Jérôme Pinault, Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux, ils sortent tous les soirs, j'en peux plus moi. Hein, j'ai plus l'âge de faire la fête comme eux tous les soirs, ça va être terrible ces trois
semaines. Ça va chahuter dans les dortoirs.
Dis le mec qui a passé à peu près 3 mois à fêter ses 60 ans.
C'est pas encore fini, je sais.
Alors, merci Christophe d'être avec nous, on est très heureux de t'avoir évidemment sur ce débat et on te retrouvera durant ces 3 semaines, l'intégral tour de 14h à 18h. Bref, vous allez comme d'habitude vous régaler. Alors, avons-nous vraiment fait le deuil de Thibaut Pinot et Romain Bardet, deux coureurs capables de jouer le podium sur le Tour de France? Le top 2, le top 5, le top 10 semble inaccessible cette année pour nos Français, même si Guillaume Martin est le seul à pouvoir se jeter dans cette bataille. Les Alaphilippe, Vauclin, Martinez, Grégoire vont eux tenter des coups d'éclat, des coups d'un jour pour briller sur ce Tour de France 2025. Alors la musique qu'il faut les jetons et cette question: faut-il se satisfaire de ces exploits sans lendemain des Français sur le Tour, oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Fred Veil.
C'est évidemment pour.
Voilà. Pascal Duprat.
Oui.
Julien Beneteau.
Non mais.
Christophe Cessieux.
Faute de mieux, évidemment que oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre?
Ok, avant de débattre, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux à Lille, c'est Kevin Morand. Salut Kevin.
Salut Jean-Christophe, salut les GG.
Alors tu as rencontré ces derniers jours tous nos coureurs français. Quels sont véritablement leurs objectifs? On parle évidemment des meilleurs coureurs français.
Oui, ils sont 38 au départ, hein, le plus gros contingent du peloton. Et nos coureurs ont de belles cartes à jouer, notamment sur la première semaine, largement taillée pour les baroudeurs punchers qui apprécient les boss. Julien Alaphilippe, par exemple, absent du Tour l'an dernier, il a reconnu deux fois l'étape de demain qui arrive à Boulogne-sur-Mer. Toujours aussi populaire, Loulou, comme on le surnomme, veut rendre l'appareil à ses fans.
Je suis toujours touché par le soutien du public, par les encouragements, et j'ai envie de donner le maximum et d'aller faire des performances, pas juste être là pour faire coucou et dire merci. Donc je me repose pas sur ça et j'ai encore envie de donner des belles choses et essayer de faire rêver les jeunes et les gens.
Pour Kevin Vauclin, vainqueur dès le deuxième jour l'an dernier, il y aura jeudi une étape à la maison à Bayeux. En plus, il est en forme, comme on l'a vu dernièrement au Tour de Suisse, le leader de l'équipe Arkéa Bien du Hôtel.
Je suis en train de kiffer ce qui se passe. Tout le soutien que je reçois par toutes les personnes qui m'encouragent. Car de sportif, c'est jamais que des hauts. Je suis sur le haut, autant en profiter. Et aussi la forme que j'avais, qui permet d'avoir une meilleure, une spirale positive. Les émotions qu'on a vécues l'année dernière, ça donne juste envie de regagner une victoire d'étape. Donc on est plus dans cet objectif-là.
Romain Grégoire aussi s'est illustré en Suisse. Il est la carte étape pour la Groupama FDJ. Mais celui qui est peut-être le plus attendu, c'est Lenny Martinez. Après un apprentissage compliqué l'an dernier, il a changé d'équipe, a gagné cette saison sur Paris-Nice et le Dauphiné. Il livre ses ambitions sur ce tour.
Premièrement, ce sera plutôt viser les étapes, plutôt une arrivée au sommet par exemple. Et je pourrais peut-être commencer à prendre des points pour le maillot à poids, mais le maillot à poids vient en second. Je sais qu'honnêtement, en général, c'est impossible que je gagne le tour pour l'instant. Donc je vois pas trop l'intérêt d'essayer de faire un top 15. Je préfère largement gagner une étape.
Bon, finalement, Kevin, si on résume, le seul Français qui ose évoquer le classement général, c'est Guillaume Martin.
Oui, en l'absence de David Gaudu, c'est le leader désigné de la Groupama FDJ, avec tout de même beaucoup de lucidité, lui qui a fini le tour à 5 reprises entre la 8e et la 13e place au général.
En France, on est assez hypocrite, où on va toujours chercher la petite bête, c'est-à-dire qu'on se plaint de ne pas avoir un coureur français qui a gagné le tour depuis 40 ans, mais en même temps, on se moque des coureurs qui... Enfin voilà, je ne prends pas le départ du tour pour gagner le classement général. Et voilà, en pensant aux jeunes, par exemple, il faut être capable d'abord de faire 10e, 8e, 7e, avant de penser à la victoire.
Alors ces jeunes compatriotes ne s'estiment pas prêts à courir plusieurs lièvres à la fois. Ils préfèrent viser les émotions immédiates. On verra si ces trois semaines leur donnent raison.
Merci Kevin Morand, c'est très intéressant en tout cas ce que dit Guillaume Martin sur aussi les médias, voire le public, les observateurs ouais. Qui suivent les coureurs français. Faut-il se satisfaire des exploits sans lendemain de nos Français? On se pose la question ce matin dans les grandes gueules du sport, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Simon Dutin, je sens que tu avais envie de réagir.
Oui, parce que encore une fois, si on se dit que on vibre que dans l'hypothèse où un Français aurait une chance, pourrait ou remporterait le Tour de France, c'est ça témoigne encore une fois d'une méconnaissance de l'histoire du Tour de France, de cette discipline, des efforts que ça demande, du courage que ça prouve à chaque fois. Si tu regardes dans les années, moi je suis venu au cyclisme, encore une fois, je le répète à chaque fois, c'est mon grand-père qui m'emmenait à une époque où on ne gagnait rien, on n'était plus invité depuis que Bernard Hinault a gagné le dernier Tour de France. On n'a jamais eu une chance de se battre pour la victoire. Donc moi, mon logiciel d'amoureux de cyclisme, il s'est construit comme ça. Il y a eu Virenc un peu dans les années 90 et on sait comment ça a fini, on sait ce qui se passait chez Festina. Et les plus belles émotions qu'on a vécues autour du cyclisme français dans les derniers Tours de France, là je vais parler sous le contrôle de Christophe, ce sont des victoires d'étape absolument magnifiques. Cette semaine, gratos, pour me plonger dans le bain, je me suis refait la victoire du petit Laffey à Saint-Sébastien en 2023. C'était absolument prodigieux ce qu'il a mis à tout un peloton. Je te parle pas de Bardet l'an dernier à Rimini, qui prend le jaune pour la première fois pour son dernier tour. Turgis l'an dernier à Troyes, qui fait une masterclass à l'arrivée, qui donne une leçon tactique j'en parle. Oui, regarde ma sensibilité. J'ai les poils qui se dressent sur les bras.
C'est ta sensibilité,
et je vais jeter un pavé dans la mare parce que moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a accompli. Mais je veux dire, là, rien que ces trois victoires, tiens, tu te rajoutes Pinot au Tourmalet en 2019, suffisamment là. Je m'en souviens avec plus d'émotion que s'il avait fini sans nous faire vibrer. Toutes ces victoires, par exemple, elles m'ont procuré plus d'émotions qu'un Jean-Christophe Perrault sur le podium, deuxième du Tour, tu vois, en 2014 ou 2015, je sais plus. Donc, ces victoires, autant peut-être parce qu'on était fiers, mais je veux dire, en termes d'émotions, en termes de mouvement, puisqu'on n'est pas invité entre Pogacar et Vingegaard, tu peux rajouter Evenepoel qui, à mon avis, est un peu trop court en haute montagne. Pour moi, ce qu'on vit ces dernières années avec, il faut saluer le travail des organisateurs et de la direction de course pour justement produire des étapes un petit peu plus accidentées qui sont pas forcément réservées aux sprinteurs et aux mecs qui pioncent devant la télé, c'est, je trouve, absolument remarquable. Et si on vibre autant cette année que l'an dernier ou qu'en 2023, eh ben moi, j'en aurais... Ah oui,
okay,
tous les jours.
Julien, voulait répondre et j'emboîte le pas. Alors c'est vrai que tu nous parles de victoire française magnifique, mais tout de même ces dernières années, on a vibré parce que Pinot était proche du classement général, parce que Alaphilippe a porté très longtemps Thomas le maillot jaune, parce que Vauclair a vécu une épopée incroyable. Exactement. C'est ça qui nous a fait vibrer.
Bien sûr. Et en fait, après c'est chacun a sa sensibilité et comment hiérarchise les performances. Les victoires d'étape que Simon a décrit avec passion et avec émotion, elles sont magnifiques. Moi, c'est pour ça que je dis non. Je sais très bien qu'on va pas gagner le Tour de France, qu'un Français va pas gagner le Tour de France. Mais je reviens sur ce qu'a dit Guillaume Martin, ou alors je croyais que c'était le coureur de la Groupama FDJ, Martin Guillonnet, parce que j'ai lu ses paroles. Je suis complètement d'accord avec lui qu'il faut pas galvauder et il faut pas banaliser un top 10 ou un top 12 ou un top 9, 8, 7 au classement général. Et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a certains coureurs français qui préfèrent gagner une étape et disparaître du peloton pendant les deux semaines et demie, se relever, prendre 30 minutes ou 40 minutes à chaque étape de montagne, mais lever les bras une fois. Ok, mais si on veut, c'est par étape en fait, si on veut un jour remettre dans le logiciel qu'un Français c'est possible, il faut que les mecs ils souffrent, il faut qu'il y en ait qui fassent
des... C'est le problème de satisfaire.
Bien sûr,
c'est
le problème, mais il faut que les mecs repassent par des top 8, des top 7, un top 6, accrocher un top 5 au général, longtemps, plusieurs fois. Ça me fait penser à deux choses dans le tennis français, la comparaison, ou dans le tennis. Premièrement, Wawrinka, avant de gagner un grand chelem, il dit, il y a des étapes avant de gagner un grand chelem, sauf quand t'es Federer ou Djokovic. Il faut que tu sois capable de gagner un 500, il faut que tu sois capable de gagner un Masters 1000, et là, après, t'as le niveau de jeu et tu peux être capable de gagner un grand chelem. Et un autre parallèle par rapport au tennis. En fait, s'il y a un Français qui fait 6e ou 7e du général cette année, vu la concurrence, vu ce qu'il y a, eh ben il faudra dire que c'est une performance monstrueuse, aussi forte que de gagner une étape. Pourquoi? Parce que ça veut dire, c'est comme on a fait avec les Monfils, les Tsonga et les Gasquet. Ils faisaient quart ou demi en grand chelem au moins une fois ou deux fois par année, et on se disait, ils gagnent pas un grand chelem, c'est pas bien. Et en fait, on s'aperçoit que derrière, c'était monstrueux ce qu'il faisait.
Christophe Cessieux.
Moi, je suis d'accord avec ce que dit Julien. C'est vrai qu'il faudrait quand même que nos Français aujourd'hui se mettent dans l'état d'esprit de jouer le général pour progresser. Et je pense notamment à Lenny Martinez, qui a 21 ans, qui dispute son deuxième Tour de France. L'année dernière, ça avait été une catastrophe, mais il était arrivé un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Cette année, il revient, mais il nous dit encore une fois que il va pas jouer le général parce qu'il est encore trop jeune. Non, je pense effectivement qu'il faut qu'il se mette dans l'état d'esprit de commencer à être dans le top 10, dans le top 5 et progresser comme ça, parce qu'évidemment tu remportes pas le Tour de France du jour au lendemain, sauf quand tu t'appelles Pogacar et que tu as des capacités extraordinaires. Il y a aussi un autre garçon qui est en réserve de la République, il a que 18 ans, il s'appelle Paul Seixas. Oui. Tout le monde nous l'annonce comme le futur grand et le futur vainqueur peut-être français du Tour de France, mais là pour l'instant, là aussi on le garde en réserve, c'est-à-dire il a 18 ans, on va pas le mettre tout de suite, on va pas le griller sur le Tour de France. Mais il y en a d'autres qui ont débuté. Alors c'est peut-être normal, mais tu sais Simon, depuis quelques années quand même, l'âge des vainqueurs et des grands champions a vraiment diminué dans le Tour. Aujourd'hui, tu as des garçons qui ont 18, 19 ans, 20 ans. Evenepoel, il a été, tu le sais bien, stoppé par trois énormes chutes qui ont complètement morcelé sa carrière jusqu'à présent. Donc, 18 ans, je suis d'accord avec vous, c'est trop jeune. Mais moi, j'aimerais bien le voir dès l'année prochaine sur le Tour et dès l'année prochaine jouer peut-être le général, pas pour la victoire, mais au moins faire un top 10, top 5 pour apprendre justement à être concentré sur 3 semaines pour arriver un jour à remporter le Tour. Mais après, ce que tu disais Simon, et moi je suis entièrement d'accord avec toi, pour l'instant on n'a pas en magasin les Français capables de gagner le Tour. Donc on se contente, mais on s'en contente avec délectation.
Se contenter et se satisfaire, c'est pas pareil.
Est-ce que toi tu te satisfais de la deuxième place aux Jeux Olympiques? Tu sais très bien que vous ne gagnerez jamais la médaille d'or.
C'est complètement faux.
Mais jamais vous la gagnerez.
Du deux années, ben justement, deux années après.
Oui, mais deuxième, deuxième, c'est Poulidor.
Oui, on va avoir, justement, si tu commences pas à gagner, si tu commences pas à construire une idée que tu peux être champion, tu seras jamais champion. On a une équipe, dans le basket, c'est un super bon exemple en plus. Hein. On a construit petit à petit, on était rien dans le basket. La dernière fois qu'on était aux Jeux Olympiques, avant 2000, on s'est moqué de nous parce qu'on se disait, c'est quoi ces glandeurs là? Quand on est arrivé en 2000, on a commencé à construire des choses. Avec l'arrivée de Tony Parker, on a construit des choses. Parce que être un champion, ça se construit. Et toujours se satisfaire et se contenter.
Mais le maillot jaune, tu l'auras pas. Le maillot jaune, vous l'aurez jamais.
C'est pas suffisant de se contenter. Au moins, viser le général, je suis d'accord avec toi. Continuer à progresser.
Avancer.
C'est pas suffisant.
Tu n'as pas les coureurs en magasin. Mais oui, mais
tu te contentes de quelque chose.
Mais tu te contentes de rien du tout. Martinez a 21 ans. Il devrait commencer à s'y intéresser. On verra comment il se comporte. Il n'est pas encore sur le tour. Les autres pour l'instant n'ont même pas le niveau pour essayer de jouer le général. Si. Guillaume Martin le disait, mais pour faire un top 10, top 15. Mais oui, ça vous fait rêver, vous, un top 10. Franchement, je suis désolé.
C'est là où il faut changer de paradigme et de prisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas. Il faut valoriser ces gars qui ne se relève pas au début d'école et souffre pour rester vidé.
Oui, mais parce que Julien, Guillaume Martin, il fait ça parce qu'il n'a pas les capacités, il n'a pas la grinta pour aller chercher une grande victoire d'étape en montagne, il n'a pas le punch, il peut pas sortir comme un Lenny Martinez ou quoi un autre. Okay. Donc lui, il fait en fonction de ses capacités. Mais c'est un coureur qui est super endurant, qui reste là, qui reste au contact le plus longtemps possible. Il peut craquer une journée, le lendemain il revient dans le jeu, mais il n'a pas les capacités pour nous faire rêver et remporter une étape. Donc chacun ses capacités, chacun ses moyens.
Mais attention, parce qu'il y a le truc, c'est que par rapport aux autres années, les grandes échappées qui arrivent au bout en montagne, etc., il faut qu'ils aient sacrément de l'avance. Parce que Pogacar, il veut tout gagner.
Et oui, il
n'y a pas beaucoup de victoires d'étape qui restent pour ceux qui ne jouent pas le général. Hein. Pascal Duprat.
Regarde ce qui s'est passé sur le Dauphiné, où Lenny Martinez a quand même remporté l'étape Rennes en battant Vingegaard et Pogacar, qui sont partis un peu trop tard. On peut imaginer, Christophe,
que Pogacar a laissé la victoire à Lenny Martinez parce qu'il voulait gagner sa 100e victoire en pro sur le Tour de France.
J'y crois pas une seconde. C'est pas le mec à attendre pour avoir une 100e sur le Tour de France. Non, je pense qu'il a pas voulu assommer complètement Vingegaard et qu'il était déjà en phase de récupération. Mais ça, c'est des circonstances de course. Ça arrive tout le temps, hein. Dans les grandes victoires françaises du Tour, il y a chaque fois eu des circonstances. Tu gagnes pas, évidemment.
Bien sûr, mais c'est le vélo.
À tous les coups, à chaque fois que tu t'échappes,
hein. Pascal Duprat.
Ouais, je crois quand même qu'on oublie une chose, c'est que si vous n'êtes pas aujourd'hui danois ou slovène, vous avez aucune chance de gagner le Tour de France. Donc ce sont des coureurs d'exception. Parce que même Evenepoel, il n'a pas encore la carrure pour gagner le Tour de France. Donc les Français, ils travaillent bien. Il faut considérer ce que font les équipes françaises. Elles travaillent bien parce que des Paul Sexas, des Romain Grégoire et des Lenny Martinez, ils ont été formés par les équipes françaises. Et si Lenny Martinez aujourd'hui dit qu'il ne peut pas gagner le Tour de France encore, il faut aussi ne pas faire l'économie de ce que son équipe, ses directeurs sportifs, considèrent de son niveau actuel. Donc peut-être que Sexas sera taillé pour gagner le Tour de France, on l'espère tous, mais pour l'instant, on doit se satisfaire de ce que les Français nous proposent, parce que depuis plusieurs années au Tour de France, les Français, ils se battent, ils se montrent, ils sont pas ridicules, ils sont pas loin de gagner encore davantage d'étapes, ça va encore être le cas cette année, eh bien, on s'en satisfera et on prendra un énorme plaisir à les voir attaquer, à les voir se livrer. Si aujourd'hui on n'a pas de Français, en nombre, capable de courir 3 semaines et d'exister au classement général, eh bien, il faut l'accepter tout simplement et considérer qu'un jour, il y aura un vrai Bernard Hinault de nouveau ou un vrai Laurent Fignon, parce que
si t'as pas construit les mentalités, je suis pas d'accord avec toi. Il faut construire les mentalités.
Non, mais tu penses que Marc Madiot, il n'a pas la mentalité pour construire des champions. Les champions, c'est d'exception. Dans ton sport, tu me parles de l'équipe de France de basket. Mais si t'as pas Tony Parker qui va faire le précurseur et qui se révèle.
En 2000, on a une médaille olympique. Il n'y a pas Tony Parker.
T'as beau préparer mentalement, tu transformes pas un lourdeau en danseuse étoile qui va l'arrêter.
Non, mais tu sais que c'est pièce par pièce que tu commences pas champion. Donc peut-être que cette petite, ce petit point en plus peut lui permettre d'être champion, justement.
Je veux aller voir Christophe parce que, évidemment, quand on parle des Français ces dernières années, on pense à Julian Alaphilippe, deux fois champion du monde, qui a porté, il y a quelques années, pendant 18 jours, le maillot jaune. Et on sait qu'il
et
revient.
Et on savait qu'il gagnerait pas.
Il était.
À Paris,
oui, mais on sait. Évidemment, c'est comme Thomas Vauclair. Mais on s'est prêt à rêver tout de même. Ça nous a fait du bien.
Vauclair, à un moment donné, c'était vraiment pas loin. Il fait une petite erreur à un moment donné sur une descente.
C'est un peu la même logique. C'est-à-dire que, bon, ce sont été un exploit monumental.
Oui, bien sûr. Ils font que derrière,
Mais justement, Christophe, Julian Alaphilippe revient sur ce tour. Il était absent en 2024. Et il rêve encore de maillot jaune. Est-ce que ça peut être là le premier frisson?
Alors, je sais pas s'il rêve vraiment de maillot jaune ou s'il nous dit la vérité lorsqu'il dit qu'il rêve de maillot jaune. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que Julian est capable de nous réserver un exploit digne de ses plus grandes années. Mais aujourd'hui, depuis l'année dernière, depuis qu'il a revêtu le maillot de l'équipe Tudor, il a encore jamais gagné de course, hein. Alors, il s'est montré dans le Tour de Suisse, il était là, mais à chaque fois, dans les étapes de montagne, il craquait dans le final, il coinçait. Il a plus les jambes de il y a 5-6 ans. La dernière fois qu'il nous a fait vibrer, c'était 2019. Hein. Ça remonte déjà, c'était à 6 ans. Ouais. Ça va très vite, une carrière de coureur cycliste. Aujourd'hui, les gamins, ils ont 18, 20, 20 25. Et quand tu approches des 30 ans, que tu les dépasses, malheureusement, tu n'as plus les mêmes moyens. Mais je pense que là aussi, selon les circonstances de course, s'il arrive à prendre une échappée, qu'il n'y ait pas de trop gros cadors dans cette échappée, que derrière, ça se regarde, il peut encore avoir la possibilité d'aller chercher une victoire d'étape. Maillot jaune et victoire finale dans le Tour de France, jamais, jamais de la vie, c'est terminé. Même en 2019, comme disait Simon, on n'y croyait pas vraiment. On pensait surtout que Thibaut Pinot cette année-là allait pouvoir s'imposer. Julian. Mais Julian, il a un truc avec le public et il procure le frisson chaque fois. On l'a vu l'autre jour dans la cérémonie de présentation des coureurs. Ça reste le coureur français le plus applaudi, le plus encouragé par les jeunes spectateurs. Ça reste l'idole encore. Mais parce qu'il nous a fait rêver, parce qu'il a porté le maillot arc-en-ciel deux années de suite. Donc voilà. Mais pour le maillot jaune, faut pas y croire une seule seconde.
Simon, tu t'attends à quoi? T'as envie de vibrer sur quoi sur ce Tour de France? Qu'est-ce qui te ferait, suffisamment vibrer pour te dire ok, c'est bien les Français?
Ah, les Français uniquement.
Ouais, les Français.
Le duel entre les deux, évidemment, ça va tenir
le plus longtemps possible. En haleine.
Si un Français peut porter le maillot jaune quelques jours, on sera ravis. Mais en revanche, enfin, moi je partage pas l'enthousiasme. Enfin, je veux dire, Christophe l'a confirmé. Même en 2019, on n'y croit pas. Donc même quand un Français porte le maillot jaune, je trouve ça sympa. Mais bon, porter le maillot jaune juste pour le porter, si t'as aucune chance de le rapporter à Paris, ça m'intéresse pas. Moi, je le répète, la victoire de Victor Laffey à Saint-Sébastien en 2023, jamais encore à 5 minutes de l'arrivée, j'aurais pu y croire. Et encore une fois, j'ai les poils qui se dressent quand j'en parle. La victoire de Turgis l'an dernier, j'ai les poils qui se dressent. C'est ahurissant en termes d'émotion. Donc, parce que on n'y a pas été habitué. La victoire de Thibaut au Tourmalet. Bon, voilà, moi, si on peut avoir 2-3 victoires d'étape cette année, avec du panache, avec une belle course, avec des favoris qui sont battus par ce qui resteront, de toute façon, ad vitam, des outsiders français, moi, ça me va. Et si ça va, avec une course qui, au sommet, réserve du suspense jusqu'au bout. Voilà, ouais. J'ai pas envie que ce soit joué trop vite entre Pogacar et Vingegaard.
Juste un dernier mot, Christophe, on te retrouvera évidemment à 14h dans l'intégral Tour et on va s'habituer comme souvent au mois de juillet avec toi des heures d'antenne absolument sublimes. Oui, c'est bon.
Non, mais je répète quoi. Un des trucs les plus excitants de ce Tour de France, c'est quand même la paire Pinot-Coppel autour de Tonton Cessieux et Pierre Yvelot quand même.
Et ça, oui, on va se régaler, auquel
on va assister.
Bon, c'est une étape pour les sprinteurs, hein, on est d'accord, Christophe, aujourd'hui à Lille.
Oui, il n'y en aura pas beaucoup, donc ils vont en profiter, les sprinteurs. Et en plus, un sprinteur sans doute revêtira le maillot jaune ce soir. ce qui est très très rare, c'est pas arrivé depuis des années que la première étape soit réservée à des sprinteurs. Bon, il faut dire qu'on leur a sucré un peu la dernière étape avec la montée de Montmartre à 3 reprises. Donc là, il y aura pas les grosses cuisses. Hein. Les grosses cuisses, elles auront disparu depuis un moment. Donc on leur donne un premier cadeau dès la première étape. Okay. Et ensuite, à partir de demain, bah, ce sera pour les baroudeurs. Et là, on espère voir nos Français.
14h, l'intégral tour autour de Christophe Cessieux. C'est reparti pour le Tour de France 2025. À tout à l'heure, mon cher Christophe. Nous allons nous régaler, évidemment.
Et à demain, mon JC. À demain. Pour ta dernière. Est-ce que tes clubs de golf sont tous dans la housse, là? T'es parti pour un an de golf ou non, là?
Alors là, à 11h56, demain, je file direct le practice, les greens, les fairways, et je me régale en vacances.
La belle vie. Oh, la belle vie qu'il va avoir, celui-là. Et il nous laisse en plan, comme ça. Non, mais c'est un scandale. Enfin, bref.
Et puis, la suite sera magnifique, évidemment, avec les GG du sport. Bref, on en parle demain, tout ça. Merci, mon cher Christophe. Je t'embrasse.
À demain.
11h30, on se retrouve dans quelques instants pour l'Euro féminin, l'équipe de France féminine qui attaque, on l'espère, avec grand succès cette nouvelle compétition. C'est ce soir France-Angleterre. Et nous sommes avec notre envoyé spécial en Suisse. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h34, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Julien Beneteau, Pascal Duprat, Fred Weiss, Simon Dutin. Sachez que dans 10 minutes, on vous attend au 32-16. Vous avez envie de débriefer le match du 15 de France ce matin face à la Nouvelle-Zélande. Premier test match de nos Bleus, malheureusement une défaite, mais très courte défaite, 31-27. Vous entendrez les Bleus. Venez réagir évidemment à cette tout de même très belle performance de notre 15 de France. Tout de suite, l'équipe de France féminine.
RMC, le dossier des GG.
Notre équipe de France féminine qui entre en scène ce soir à 21h face à l'Angleterre dans cet Euro féminin. Des Bleus New Look, pardonnez-moi, sans trois cadres. Wendy Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali, 444 sélections. À L3, le nouveau sélectionneur, Laurent Bonadei, voulait donner un nouveau souffle à une équipe toujours en quête de son premier titre majeur. On va justement retrouver notre envoyé spécial en Suisse, Arnaud Valadon. Bonjour Arnaud.
Bonjour JC, bonjour les GG.
C'est important de le rappeler avant cet Euro, des Bleus qui sont allés d'échec en désillusion depuis la demi-finale historique au Mondial 2021. Depuis, c'est 7 éliminations en quart de finale.
Et il faut se remettre la tête à l'endroit, après peut-être l'échec le plus fort de l'aveu même des joueuses. Les Jeux Olympiques et cette défaite en quart contre le Brésil. Les Renards ne sont plus là. Hervé le sélectionneur et Wendy, l'icône non retenue par Laurent Bonadei, le numéro 2 devenu numéro 1. Ce dernier assume ses choix et le test de vérité arrive rapidement. L'Angleterre ce soir, vice-champion du monde, tenant du titre à l'Euro, et les Pays-Bas en poule.
On rentre dans le vif du sujet, il n'y a pas de round d'observation, donc forcément on est en position de challenger. À partir du moment où je le dis depuis le début, on n'a encore rien gagné, les favoris de ce groupe sont les Pays-Bas et l'Angleterre, mais ça ne veut pas dire qu'on manque d'ambition, au contraire, on va aborder ce groupe avec l'ambition de vouloir gagner tous nos matchs.
Les choix forts, tu en as parlé JC, pas de Wendy Renard, l'ex-capitaine, pas d'Eugénie Le Sommer, la record woman de sélection, 200 caps, Kenza Dali, tu l'as dit, plus de 400 caps pour ces trois-là, ça secoue. Sakida Karchaoui, qui va être appelée à être une cadre, n'a pas de doute, le collectif sera toujours aussi fort.
C'est vrai qu'il y a eu énormément de changements au cours de cette année-là, mais on reste un groupe fort, ça reste l'équipe de France, on est en train de construire un collectif fort. Ça s'est vu dans ces 3 semaines de préparation. Et bien sûr, on a travaillé sur tous les aspects. Maintenant, il y a une très belle compétition qui arrive. Et c'est à nous de montrer ce que l'équipe de France a dans le ventre.
Moins d'engouement, c'est pas certain, à en croire la forte présence française médiatique pour ce premier match à Zurich. Rien à voir évidemment avec les Anglais. Il y a la diffusion en prime time ce soir sur TF1. Selma Bacha reconnaît, elle, qu'elle se fait toujours arrêter dans la rue pour des autographes.
Non, pas forcément. Les personnes me demandent des photos, me parlent, mais c'est vrai que ils sont derrière nous, en fait. Ils vont pas dire oui, on a envie. C'est malgré nos échecs dans les compétitions, ils ont toujours été là. Et pour moi, c'est important et je les remercie.
Tu as parlé de tous ces échecs en quart de finale et finalement l'Euro JC peut-être la compétition qui va le mieux aux Bleus puisque depuis 15 ans et ses 7 défaites en quart de finale, la seule fois où les Françaises se sont hissées dans le dernier carré, c'était il y a 3 ans à l'Euro avec une demi-finale perdue contre l'Allemagne.
Merci beaucoup Arnaud Valadon, tu restes avec nous pour ce débat. Après ces échecs à répétition, mais GG, les Bleus sont-elles retombées dans l'anonymat? Oui ou non? Simon Dutin?
Oui.
Fred Weiss?
Non.
Non, décidément aujourd'hui tous les deux. Pascal Duprat.
Oui.
Julien Beneteau.
Complètement.
complètement. Pascal Duprat, pourquoi oui ?
En fait, parce qu'il faut refaire l'histoire et se dire que l'équipe de France féminine, à grand coup de promotion, elle a échoué sur deux compétitions, entre autres, qu'elle a organisées. Parce qu'en 2019, la Coupe du Monde en France, sous Corinne Diacre, les Françaises perdent contre les États-Unis en quart de finale. Et puis, quand Hervé Renard, à grand coup d'annonce médiatique, prend la succession, on espère qu'aux Jeux Olympiques, il performe. Et là, patatrac, pareil. Donc, à force de ne pas réussir, et en plus à force d'observer et de regarder des matchs pas toujours aboutis dans ces tournois majeurs, on s'en prend à se dire qu'elles ont laissé passer leur chance. Et puis, pour corroborer le tout, il faut aussi dire que le championnat de France féminin, Arkema, ne prévaut que parce qu'il y a le PSG, que parce qu'il y a l'OL, bien entendu, et puis maintenant il y a l'émergence du Paris FC. Mais après ça, ce championnat-là, il est disparate pour le moins, parce que les moyens sont pas à la hauteur. C'est aussi une histoire de moyens, tout ceci.
Et chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'à chaque fois, c'est dans son contrat que Pascal Duprat prend la parole. Il y a évidemment les cigales en fond pour nous montrer qu'il est déjà bel et bien en vacances. Et on adore ça, évidemment. Ça nous donne un petit peu de gaieté et de soleil dans le studio. Ça te fait penser à
Limoges.
T'as déjà vu une cigale, Fabrice, d'ailleurs? À part Steven.
Ah, excellent.
Non, pas du tout. Okay. Même pas, Steven.
Même pas, Steven.
Viens faire un tour. Okay. T'es mon invité.
Je pense qu'on va délocaliser l'émission à chaque fois au mois de juillet avec Jean-Paul du Montgarde, avec Pascal Duprat. J'ai entendu pas mal de désamour de la part de Pascal, dû à la promotion peut-être exagérée autour de cette équipe de France. On se disait, ça y est, elles vont faire comme les garçons, elles vont être championnes du monde, elles vont gagner les Jeux Olympiques. Et puis patatras.
Oui, patatras.
Même si ce mot se dit plus depuis Bellurette.
Bellurette non plus, ça suffit.
Elles n'ont pas gagné. Et si elles retombent aussi dans l'oubli, un petit peu, enfin, à mon avis, c'est que, sans vouloir faire offense au sélectionneur Laurent Bonadei, il est moins connu et moins charismatique que Hervé Renard. Corinne Diacre aussi, de par son de par sa carrière de joueuse et de par son style, on parlait d'elle, qu'il y avait encore des filles connues, des joueuses connues comme Wendy Renard, Ginny Le Sommer, Gaëtan Tinet. Aujourd'hui, il y en a qui ont pris leur retraite, il y en a qu'on a mis à la retraite internationale. Et donc aujourd'hui, dans la composition d'équipe, dans le 11 de départ, si on ne suit pas le championnat de France assidûment, on n'en connaît aucune.
Difficile de s'attacher aujourd'hui.
Donc c'est très très dur. Il y a un manque d'identification aussi. Puis quelques histoires aussi externes qui font qu'il y a un petit peu un désamour, les histoires entre...
Tu fais bien de le souligner.
Katoto...
Parce qu'elles ont voulu la tête de Diacre.
Voilà.
Il faut aussi tout dire. Hein.
Oui, exactement.
Elles ont fait les garçons.
Ah, okay. Elle m'a vu aussi sympathique qu'avant. Alors, en 2019, à la Coupe du Monde, il y avait quelque chose, il y avait un frémissement. Ouais,
j'ai pas du tout la même lecture que vous. Alors, mais absolument pas. À un moment, il faut quand même se rendre compte de ce qu'est l'anonymat. L'anonymat, c'est pas jouer sur TF1, la plus grande chaîne d'Europe. L'anonymat, c'est pas déplacer 16 000 supporters. L'anonymat, c'est pas être devenu, le football féminin est devenu le premier sport collectif féminin. 250 000 licenciés. C'est-à-dire que, ils ont rattrapé le retard. C'est pas le foot, en fait, Pascal. Si tu savais, avant, le basket était largement au-dessus. Ils ont bien travaillé. Donc, il y a 250 000 licenciés. Ils ont rattrapé le basket, qui était largement
le
devant.
Le basket, ils sont pas dans l'anonymat, contrairement au foot.
Mais c'est
pas,
alors, concrètement, si. Parce qu'ils sont pas sur TF1. Vous imaginez combien de personnes ont la possibilité de voir ce match-là?
Toi qui aimes les succès, à un moment donné. C'est les succès qui font les équipes.
Oui, mais c'est pas ça qui te met dans l'anonymat. Si maintenant, là, par exemple, tu vas jouer contre l'Angleterre, tu gagnes contre l'Angleterre sur TF1, je peux dire que l'anonymat, il sera fini. Demain, tout le monde les reconnaîtra, les filles. Tout le monde va se lancer dans le truc. En fait, l'image que tu peux donner quand tu es sur une chaîne aussi immense que TF1, c'est extraordinaire.
La popularité qui est chère à Moscato, elles ont beau gagner ce soir contre l'Angleterre, t'en mets deux demain
c'est la récurrence. C'est sur une chaîne aussi énorme avec autant de possibilités de téléspectateurs, ça va permettre de relancer.
Oui, mais Fred, tu sais qu'il y a quand même un projet national depuis quelques années pour mettre en lumière, mettre en valeur le sport féminin qui était injustement sous-médiatisé, tout le monde en convient, depuis des décennies. Mais là, moi, je reprends le test de juin. Il y a même des mauvaises langues qui te diraient, par rapport à la question qu'on pose, que l'équipe de France, elle est jamais finalement vraiment sortie de l'anonymat. Il y a eu les tournois à domicile. Chaque fois qu'on approche des Jeux Olympiques, pendant longtemps, le foot féminin était plus important que le foot masculin dans ce tournoi.
16 000 spectateurs, bon, c'est comme pour les garçons.
Très bien, hein.
Si on
poursuit sur l'idée de Julien, je vais te mettre un micro RMC à la main, là, tu vas sortir dans le quartier et tu vas aller le tendre aux gens que tu vas croiser. Tu vas dire, l'équipe de France féminine, c'est quoi son actualité? Les gens ne savent pas que l'Euro débute. Tu leur dis, quel est le nom du sélectionneur? Je pense que t'es parvenu avant 18h avec la réponse. Personne ne le connaît.
18h, ça dépend le jour.
Et encore, ça dépend. Et ça dépend
évidemment
combien,
à l'instant T.
Il ne s'agit pas d'afficher ni du mépris ni de l'ironie, Fred, parce que nous, c'est notre métier, on s'y intéresse. C'est l'actualité, on en parle ce matin. Mais auprès du grand public, tu parles de l'anonymat. C'est pas parce que TF1 veut mettre en valeur, promouvoir le sport féminin et cette compétition, qu'elle ne sont pas dans l'anonymat.
Je me répète, dans la plus grande chaîne d'Europe, quand même.
On l'a rappelé, on a entendu avec Arnaud, toutes les têtes d'affiche, les joueuses qui étaient un petit peu identifiables auprès du grand public, Le Sommer, Renard, Kenza Dali, elles ne sont pas là parce que Bonadei, il prend ses marques, il fait des choix très forts, alors qu'elles le comprennent, que les joueuses en question les comprennent ou pas, c'est autre chose, c'est de la logique sportive.
Mais c'est ses performances qui ont parlé pour lui.
Elles ne sont pas retombées dans l'anonymat. Qui est la meilleure joueuse du championnat de D1 Arkema cette saison?
Katoto, non?
Comment?
Katoto?
Non, c'est Clara Matteo. Voilà. Clara Matteo, encore une fois, avec ton micro RMC tout à l'heure, Fred Weiss, tu vas aller demander aux gens qui affichent de la sympathie pour le football.
Je suis choqué pour le faire demain matin.
Féminin.
Demain matin, bon, je suis choqué pour le faire.
Et demain matin.
Et d'ailleurs, on sera pas sur TF1 et ce sera différent.
Je le regrette, je le déplore, mais malgré tout, on est confronté au principe de réalité.
Ok, les amis, Marie-Antoinette Katoto, moi, je peux vous le dire, vous pouvez aller la voir et je pense que on espère qu'elle cartonnera avec notre équipe de France. C'est à suivre avec Arnaud Valadon. Merci beaucoup, Arnaud. C'est à partir de 21h ce soir et on espère que ces Bleus vont enfin aller très loin dans cette compétition demi-finale et pourquoi pas finale, on sera là évidemment et tu seras là pour suivre notre équipe de France. Il est 11h46, on se retrouve dans une poignée de secondes car nous allons parler d'une autre équipe de France. C'est le 15 de France qui a failli battre la Nouvelle-Zélande ce matin, vous l'avez suivi sur RMC. On va tout vous dire autour de cette rencontre, notre commentateur Julien Richard est là, on vous attend évidemment au 32-16. Bah oui, les antipodes c'est pas si loin, hein.
Dinedine c'est à côté,
c'est la porte à côté. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Le rugby, c'est un espèce de sport.
Les grandes gueules du sport.
C'est un spectacle, pardon.
Jean-Christophe Drouet.
Ah, Denis Charvet, un jour, a essayé de nous dire quelque chose et on l'aime très fort, on l'embrasse.
C'est finir une phrase.
Mais... s'il nous écoute ce matin, il est 11h49. Nous allons parler du 15 de France et de la très belle performance des Bleus ce matin en Nouvelle-Zélande pour le premier test match. Mais tout d'abord, on accueille Fabienne, notre grande gagnante. Enfin, on va voir si c'est notre grande gagnante. Bonjour Fabienne.
Bonjour Jean-Christophe et merci, c'est complètement fou, j'en reviens pas.
Bah attendez, pour l'instant tu n'as rien gagné Fabienne, pour l'instant.
Non, bon d'accord.
Il faut répondre à cette question très compliquée. Qui est ta GG préférée?
Et pourquoi moi Fabienne?
Ah Jean-Christophe.
Ah oui, bon ça marche hein.
T'es pas une GG toi.
Oui mais non, bon ça. Je suis dans l'émission, ça marche. Fabienne,
mais toute l'équipe, vous êtes top. Je vous écoute tous les matins, tous les samedis, dimanche matin, c'est génial. J'ai regardé le match, j'ai écouté le match de rugby, c'est génial. J'ai tenté ma chance hier au jeu et voilà.
Eh bien donc, bravo ma chère Fabienne, parce que tu as remporté une expérience unique grâce à Mondial Relais, l'un des partenaires majeurs du Tour de France. Avec la personne de ton choix, tu vas vivre de manière exceptionnelle la 7e étape du Tour, vendredi 11 juillet, entre Saint-Malo et Mur-de-Bretagne. Bravo Fabienne. Est-ce que tu es à côté? Est-ce que tu es à côté du Mur-de-Bretagne? T'habites où?
Ah, je suis à Chartres, donc c'est pas très très loin.
Très bien. Tu adores le Tour, j'imagine.
J'entends pas
bien. Tu adores le Tour, j'imagine.
Ah bah je suis, bah ouais, j'ai toujours suivi, même toute petite, donc c'est top, c'est
bon,
génial, ça ramène en enfance, c'est génial.
Bah, on est très très heureux pour toi, grâce à RMC Mondial Relais, c'est parti, deux places pour le Tour de France, bravo ma chère Fabienne et merci beaucoup de ta fidélité, à bientôt sur RMC, Fabienne.
Les grandes gueules du sport sur RMC avec Mondial Relais, partenaire officiel du Tour de France pour la seconde année. Mondial Relais, plus de 8000 lockers et 9000 points relais partout en France.
Allez, il reste quelques minutes dans les grandes gueules du sport avec Simon Dutin, Fred Veil, Julien Beneteau, Pascal Duprat et Julien Richard qui a passé la matinée avec nous. Rebonjour Julien.
Adunedine, salut tout le monde.
Exactement, pour ce match, premier test match de notre 15 de France face à la Nouvelle-Zélande, on promettait l'enfer, voire la raclée, voire la déculottée pour nos bleus. Bah, au final, il n'en a rien été.
Et au final, c'est pas passé loin. Défaite de l'équipe de France de 4 points, 31 à 27. Ça avait commencé très fort, Adunedine. Avec la version guerrière, le Kapao Pango, parce que les Blacks, bah, ils restent sur trois défaites consécutives. Ils restaient sur trois défaites consécutives contre l'équipe de France. Et puis, il y a eu cet avant-match un peu particulier. Manque de respect, avait titré la presse néo-zélandaise pour parler de cette équipe de France sans ses meilleurs joueurs. Huit bleus, c'est vrai, ont décroché leur première sélection avec l'équipe de France sur ce match, dont l'ouvreur bayonnais Joris Segond au micro de nos confrères de Canal+, après le match.
Aujourd'hui, je pense que c'est un petit réveillé, je réalise pas encore. Surtout là, c'est frustrant, mais en même temps, on est tellement fiers d'avoir rivalisé face à cette équipe des Blacks. Tout le monde nous annonçait un enfer, plus de 50 points. Je pense qu'on était beaucoup de premiers capés, on était quand même une équipe assez inexpérimentée. Franchement, aujourd'hui, je retiendrai l'état d'esprit, c'est magnifique, je pense que c'est ce qu'on a fait. Et c'est frustrant parce qu'au final, on échoue à 4 points des Blacks. Mais c'est magnifique et je pense que celle-là restera grave à jamais.
Avec même un dernier ballon dans les 22 négocié par l'équipe de France en avant, mais ils avaient la possibilité d'aller le gagner ce match chez l'équipe de France qui a regardé droit dans les yeux donc les All Blacks et s'est servi de ce contexte justement d'avant-match. Le troisième ligne, Mickaël Guillard, toujours au micro de nos confrères de Canal+.
Ouais, c'est sûr que ça nous a motivé. Quand pour le respect des, on a aucun respect par rapport aux 42 joueurs qui sont présents ici en Nouvelle-Zélande. On reçoit que des moqueries de la part de la presse néo-zélandaise. Donc voilà, on avait tous très à cœur de faire un gros match pour montrer que certes, il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas tous les meilleurs joueurs d'équipe de France, mais les joueurs qui sont là ont le niveau et ont pu montrer ce soir qu'ils pouvaient rivaliser.
Et le sélectionneur de l'équipe de France avait aussi appuyé sur le bouton histoire pour préparer ce match. Et il voulait rendre hommage à l'équipe de 2009 qui est la dernière à s'être imposée en Nouvelle-Zélande. Et le sélectionneur est fier de ses joueurs.
Les joueurs ont cru en eux, c'est ça qui est bien. Il faut qu'ils continuent à croire en eux. Ces deux semaines, il faut que ce soit vraiment. On est rentré dans un tunnel assez particulier et il faut qu'on prenne le maximum d'opportunités, de plaisir, de bonheur à être là maintenant, à être là, à vivre ces trois test matchs. Il faut qu'on prenne tout ça et après on verra. Mais on va se battre.
Ouais, et le prochain match, c'est samedi. Le deuxième de ces trois matchs en Nouvelle-Zélande, ce sera à Wellington cette fois.
Exactement, et on va suivre ça évidemment sur RMC. Ce sera également à 9h05, donc dans les grandes gueules du sport. Nous suivrons la deuxième performance de notre 15 de France. Tout à l'heure, Pascal, tu voulais parler de nos bleus, parce que c'est vrai que on s'attendait à autre chose et pas à un match aussi serré. On peut être fier de ces bleus.
Oui, je voulais simplement dire, non pas édulcorer ce que fait très bien Galtier en tant que sélectionneur, mais c'est certainement le sélectionneur en France de tous les temps qui dispose du meilleur réservoir parce que la formation française est exceptionnelle et parce que le top 14 permet la mise en lumière de ces jeunes joueurs. Donc Galtier profite, entre guillemets, de tout cela. La France rayonne dans les championnats du monde des clubs parce que le top 14 est de très très bon niveau. Cela dit, la performance est exceptionnelle aujourd'hui, mais moi je suis pas surpris parce que ce ne sont pas des remplaçants, ce sont des joueurs jeunes pour la plupart, mais de top 14 et des joueurs qui sont sur le toit de l'Europe aussi, il faut le reconnaître, depuis plusieurs années. Bravo au rugby français.
Il y a Philippe qui nous appelle au 32-16 qui veut réagir à ce match. Bonjour Philippe.
Bonjour à tout le monde.
Salut Philippe. Merci d'être avec nous. Alors tu en as pensé quoi de ce premier test match ?
Alors sur l'état d'esprit, aucun problème, les mecs, ils étaient présents, ils ont répondu. Bah alors par contre sur votre engouement sur un match exceptionnel, je dirais que non, parce que pour gagner au rugby, il faut quand même avoir le ballon. On a été archi dominé sauf le premier quart d'heure. Et si l'arbitre refuse pas trois essais dont deux parfaitement valables, je pense que la note aurait été beaucoup plus salée.
Les deux ne sont pas
valables.
Deux sont pas valables. Il y a quatre arbitres dans les vidéos qui refusent les arbitres. Donc, tu ne peux pas dire qu'ils sont valables.
Il y en a deux valables.
Bah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Il est parfaitement valable.
Bah non, c'est pas vrai.
Là, vous connaissez pas la règle rugby.
D'accord, ok.
Et les arbitres non plus.
Les arbitres internationaux non plus.
Allez Bennett.
Les arbitres internationaux non plus connaissent pas la règle du rugby.
Bon, donc t'es un peu mitigé, Philippe, si je comprends bien. Ouais, ben...
Je suis pas mitigé. Je dis que l'état d'esprit est bon. Je dis que certains joueurs ont marqué des points, mais que
mais faut relativiser.
Le match est loin. Il faut relativiser parce que le match est loin d'être abouti. On a dû passer une fois la ligne en deuxième mi-temps. Et à partir de la 15e minute du match, on n'a fait que défendre. Et au rugby, on ne gagne pas quand on ne fait que défendre.
Philippe a raison, on a manqué un petit peu de ballon en seconde période. La fameuse défaite encourageante, tu vois. Ils ont chuté à 2 mètres
du
buffet.
Mais t'as bien ça, non, les défaites encourageantes.
À 2 mètres du buffet. Il y avait du bon à retenir, en effet. Et là, je rejoins Pascal. Il n'y a pas que des pimpins dans ce 15 de France. Oui. Mais là, je parle sous le contrôle de Julien. J'ai peur que, tu vois, historiquement, souvent, quand tu la première en tournée dans l'hémisphère sud, tu perds de quelques points. J'ai peur qu'on en prenne 40 la semaine prochaine.
Ok, bon, ce sera samedi prochain. Merci beaucoup, Julien Richard, d'avoir été avec nous toute la matinée aux commentaires de cette rencontre. Merci à toutes les GG. Merci, mon Pascal. Merci, mon frère.
Bravo, JC.
Simon Dutin.
Merci, JC.
Julien Bennett.
Je
vous réserve merci évidemment beaucoup, un petit mot, les amis, demain. Un
bravo,
petit mot.
JC,
voilà, soyez présents. Soyez présents devant votre poste. Je vous aime très fort. Et on se retrouve évidemment demain à partir de 9h avec David Douillet, Fred Le Canu, Simon Dutin, Julien Beneteau. Encore une émission exceptionnelle. Merci à Maxime Abolin, notre producteur, et Alban Azaïs, le réalisateur. On se retrouve dans quelques instants pour les Paris RMC. Je vous embrasse.